Bonjour à Bamako et à Ouagadougou, 22h à Alger. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par la signature de la déclaration d'Alger par les trois groupes rebelles du nord du Mali qui déclarent vouloir consolider la paix. Seconde partie de notre dossier consacré à l'augmentation du trafic de médicaments en Afrique.
On voit même des infirmières dans certains cas qui volent les vrais médicaments dans les hôpitaux pour faire de l'argent en les revendant et qui vont à la pharmacie de rue s'approvisionner pour remplacer les médicaments volés à l'hôpital.
Quelles actions peuvent-elles être prises par les gouvernements africains contre le trafic de médicaments ? Réponse de Bernard Leroy, directeur de l'Institut de recherche anti-contrefaçon des médicaments. Nous évoquerons ensuite les transferts illicites d'argent africain vers l'étranger, une corruption qui coûterait plus de 50 milliards de dollars au continent. Enfin, rubrique African Voice, la ministre burkinabé des droits humains, Julie Prudence Nigmasongma, dénonce le mariage des enfants. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bian à ce microphone. Nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Plus de 300 membres présumés du groupe radical nigérian ont investi le village de Gorsitourou, incendiant des églises et pillant la localité. Les précisions, Lionel Gaïma.
Moussa Sambo, le chef du village ciblé, rapporte que les assaillants s'étaient positionnés dans les collines environnantes pendant 5 jours avant de passer à l'offensive vendredi soir. Les forces camerounaises sont arrivées sur les lieux 2 heures plus tard pour livrer bataille. L'attaque a été repoussée et les assaillants se sont enfouis en territoire nigérian, a affirmé de son côté le ministre camerounais de la communication Issa Chiroma. Il a fait état de nombreux assaillants tués et d'un soldat camerounais et un villageois. Il a appelé les habitants à informer les autorités de toute activité suspecte dans leur région. Toutefois, le chef de village Moussa Sambo rapporte que les soldats camerounais n'ont pas pu accéder aux collines où se sont retranchés les assaillants.
Le président du Conseil des imams des prédicateurs du Kenya a été abattu ce matin à Mombasa. Cheikh Mohamed Idriss, un imam modéré, avait été menacé par des jeunes musulmans radicaux. C'est le 4e chef religieux à être tué dans cette ville kenyane ces 2 dernières années. Les 3 autres étaient accusés d'avoir des liens avec les islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Des milliers d'enfants sont menacés par une épidémie de rougeole en Somalie. L'UNICEF et l'OMS appellent à une campagne de vaccination d'urgence et l'ONU a averti auparavant du risque de la crise alimentaire dans ce pays en guerre depuis 2 décennies. Le nombre de migrants arrivés en bateau en Italie depuis le début de l'année a passé la barre des 50 000. Le directeur général de l'OIM, William Lacy Swing, a appelé à prendre des mesures au plan international suite à l'arrivée ce week-end de plus de 5 470 migrants en Sicile.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Irak, les extrémistes islamistes sunnites ont pris aujourd'hui Kirkouk et Mossoul, la seconde ville du pays où plus de 4 500 personnes ont été tuées cette année. Il s'agit d'une cuisante défaite pour le gouvernement du chiite Nouri al-Maliki face aux avancées de l'État islamique en Irak et au Levant. Michel Joseph.
Cette branche d'Al-Qaïda s'était déjà emparée de Fallujah dans l'ouest au début de l'année. La prise de Mossoul, deuxième ville du pays, représente un effondrement total des forces de sécurité selon un commandant militaire irakien. Le premier ministre al-Maliki a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Les insurgés ont saisi le siège du gouvernement provincial, des bases sécuritaires et d'autres bâtiments. Ils ont aussi libéré des centaines de prisonniers, des combattants d'Al-Qaïda pour la plupart. Dans leur retraite, les troupes irakiennes ont mis le feu à des dépôts de munitions et à des réserves de carburant. Les djihadistes tentent d'établir un état islamique dans les régions qu'ils contrôlent, dans l'ouest de l'Irak et dans l'est de la Syrie voisine, où ils combattent également le président Bachar al-Assad.
Et puis, 5 soldats américains et un Afghan ont été tués lundi dans le sud de l'Afghanistan, vraisemblablement dans des bombardements des forces de l'OTAN. Et deuxième journée de négociations directes entre les États-Unis et l'Iran. Les deux parties se rencontrent à Genève pour tenter de forger un accord durable sur le nucléaire iranien. L'Iran et le groupe des 5+1 doivent se réunir la semaine prochaine. En Égypte, après l'agression sexuelle d'une étudiante par un groupe d'hommes place Tahrir au Caire lors de l'investiture du président Sisi, des militants des droits de l'homme dénoncent l'insuffisance des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Entre autres agressions, une femme a été brûlée à l'eau bouillante sur la place Tahrir par trois assaillants qui l'ont déshabillée selon le bureau du procureur. Plusieurs organisations des droits humains ont appelé à manifester samedi pour dénoncer ce fléau. Et puis, Boko Haram encore, c'était dans l'état de Borno, au Nigeria. Plus de 20 femmes ont été enlevées samedi par des militants présumés de cette organisation près de Chibok, où plus de 270 écoliers ont été kidnappés en avril. Ces derniers n'ont toujours pas été retrouvés.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par la signature de la déclaration d'Alger par les trois mouvements rebelles du nord du Mali, le MNLA, le HCUA et le MAA. Ces trois mouvements réaffirment leur volonté d'un dialogue inclusif avec les autorités maliennes pour consolider la paix. Mohamed Ag Aharid est le porte-parole du HCUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
C'est en vue de, justement, de préparer les prochaines négociations que les trois mouvements se sont retrouvés à Alger. C'est une des prises de contact préliminaires qui vont peut-être aboutir à des négociations. Et comme vous le savez, bon, ça fait bientôt un an qu'il y a eu un accord signé. Et jusqu'à présent, et aujourd'hui, on est à la case de départ. Donc.
Quel est le contenu de la déclaration d'Alger?
Bon, en fait, la déclaration d'Alger, c'est pour montrer qu'on est en train de faire des efforts pour aller vers le dialogue comme la communauté internationale l'a toujours souhaité. Donc c'est pour montrer et prouver notre bonne volonté à aller de l'avant afin de trouver une solution durable à ce problème. Maintenant, on a discuté bien sûr avec les autorités algériennes et on a évoqué toutes les difficultés qu'il y avait. Et aussi, on a dit ce qu'on attend de ces négociations, notamment une nouvelle gouvernance dans les droits et dans les faits. Et bien sûr, en tenant compte de la diversité géographique, économique, culturelle, et surtout la spécificité de l'Azawad. Et il y a l'aspect sécuritaire aussi, qui est très important, et le développement. Et aussi, trouver les mécanismes par lesquels il faut garantir tout ça.
Quels efforts êtes-vous prêt à faire de votre côté?
Bon, on a fait suffisamment d'efforts. On a quand même, depuis un an maintenant, on a fait tous les efforts pour aboutir justement à cet accord. Et on a respecté tous les contrats qui nous ont été imposés. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, la situation est tout autre. Donc, maintenant, et encore une fois, nous sommes à Alger justement pour prouver ces efforts-là, pour encore trouver une solution au problème.
Est-ce que vous souhaitez toujours l'autonomie de l'Azawad?
Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être, on le souhaite peut-être même un peu plus.
Quand vous dites un peu plus, qu'est-ce que vous entendez par là?
Bon, c'est-à-dire une autonomie, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais une véritable autonomie dans laquelle quand même on tient compte du règlement des problèmes sur tous les aspects, c'est-à-dire donner suffisamment de pouvoir à l'Azawad et pour pouvoir vraiment évoluer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du développement. Et donc c'est une large autonomie, et c'est ça. Les gens, ils ont d'autres revendications, hein. c'est la sécession.
Et alors vos revendications, est-ce que vous revendiquez toujours l'indépendance?
Non, pour le moment, je pense qu'on est revenu. On a, pour le respect que nous avons à la communauté internationale, on est obligé de revenir en respectant l'intégrité territoriale du Mali. Ça veut dire tout simplement que donc on préserve l'intégrité territoriale du Mali. Mais cela ne se entend pas quand même que nous allons céder nos droits. Et on fera tout pour les défendre.
En ce qui concerne l'application de la charia, quel est votre...
On en parlera, mais de toutes les manières, ça fait partie des points de revendication.
Et quel est votre point de vue?
Une charia imposée, ce n'est pas une charia, ce sont les populations, bien sûr, qui vont décider.
Mohamed Ag Harid, le porte-parole du HCUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Notre dossier de la semaine est donc consacré au trafic des médicaments qui sont en forte augmentation dans le monde et particulièrement en Afrique selon Interpol. Quelles sont les possibilités d'action et de régulation pour les gouvernements africains? Bernard Leroy est le directeur de l'IRACM, l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Il revient sur les actions et les recommandations de l'IRACM.
Nous allons également développer des actions avec des organisations d'intégration régionale comme la CDAO, car dans les traités qui ont créé ces institutions, il y a la possibilité d'adopter des lois globalement pour tous les pays de la région et ensuite de les répercuter localement, ce qui accélère les processus législatifs et en même temps harmonise a priori les législations.
Mais est-ce que les défis ne sont pas trop grands? Est-ce que réellement on peut faire quelque chose contre ça?
Le phénomène a pris des proportions considérables. La pharmacie de rue, c'est 50% de la fourniture d'approvisionnement en médicaments de la population africaine. On voit même des infirmières dans certains cas qui volent les vrais médicaments dans les hôpitaux pour faire de l'argent en les revendant et qui vont à la pharmacie de rue s'approvisionner pour remplacer les médicaments volés à l'hôpital. C'est indispensable de s'attaquer au problème, car c'est un enjeu de santé publique gravissime puisqu'on trouve des faux médicaments contre le sida, contre la tuberculose, contre le paludisme, comme moyen de traiter les problèmes de santé les plus graves pour l'Afrique. C'est donc indispensable, sous l'angle de la santé publique, de faire quelque chose et de le faire maintenant. Et c'est aussi une nécessité sous l'angle de l'état de droit. Parce que ça veut dire qu'il y a tellement d'argent à la clé qu'on risque d'aboutir à des situations incontrôlables du point de vue de la corruption des pouvoirs publics par les trafiquants.
Comment peut-on s'attaquer à ça?
Alors, il faut le faire systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le besoin d'avoir des stratégies de la part des États. Il ne faut pas qu'ils agissent au coup par coup, après coup. Il y a besoin d'outils. Il faut qu'ils aient des lois. Il faut qu'ils aient des policiers, des douaniers formés. Il faut que le volet prévention soit pleinement développé. Il faut aussi que dans chaque pays, on se rende compte que c'est un problème mondial. Ici, les États-Unis, par exemple, sont très focalisés sur Internet parce que le Viagra aux États-Unis arrive par Internet. Mais la situation mondiale, c'est aussi les containers en Afrique. Et donc, il importe que la communauté internationale ne pense pas pays par pays à son nombril, mais soit capable de s'attaquer aux problèmes globalement et que les pays riches aide vraiment les pays pauvres.
Bernard Leroy, directeur de l'IRACM, l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, est l'invité d'honneur de l'Union panafricaine des avocats, l'UPA, et il a lancé un avertissement à Yaoundé. L'Afrique perd énormément d'argent avec tout l'argent transféré vers l'étranger. Issa Napon.
À l'occasion de son assemblée triennale au Cameroun, l'Union panafricaine des avocats a chiffré à entre 50 et 60 milliards de pertes le coût annuel de la corruption en Afrique, qu'il s'agisse de vols, pots de vin, échanges douteux entre sociétés, activités criminelles, commerce international, réseaux financiers internationaux et autres. Le président de l'organisation, Maître Elia Banda, affirme que les détournements de fonds ne sont plus le fait uniquement de dirigeants véreux. Il ne s'agit pas de gens qui traversent les frontières avec des caisses remplies de sous. C'est fait de plusieurs manières, dans les transactions multinationales, des transferts entre corporations. Femi Falana, un avocat nigérian spécialisé dans les droits humains, accuse ces multinationales de collaborer avec les élites de son pays pour piller les ressources. Le gouvernement nigérian, par pure irresponsabilité, après 54 ans, ne sait toujours pas combien de pétrole est produit quotidiennement au Nigeria. Il s'appuie sur ce que Shell, Mobil et les autres compagnies pétrolières nous disent. Voici ce que nous avons retiré du sous-sol. Nous avons perdu, comme en 2011, jusqu'à 16 milliards de dollars. Les carences juridiques facilitent ces trafics, selon l'avocat Falana, qui ajoute que depuis 2011, on peut même quitter le pays en déclarant l'argent que l'on sort, même s'il s'agit de millions. Dans un rapport conjoint, la Banque africaine de développement et l'ONG américaine Global Financial Integrity ont indiqué qu'entre 1980 et 2009, jusqu'à plus de 1 000 milliards de dollars ont quitté illicitement l'Afrique. L'avocat camerounais Akere Mouna explique que la Banque mondiale aide les pays africains à retrouver la trace de ces fonds. Mais même s'ils sont localisés, affirme Anna Gardner de l'ONG internationale Lawyers for Africa, le processus pour les récupérer est long et ardu, d'où le désir de trouver les moyens de le simplifier. Pour Thabo Mbeki donc, c'est tout l'avenir de l'Afrique qui est en jeu.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 99 FM, notre fréquence à Abidjan.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça.
Chaque année dans le monde, 14 millions de filles de moins de 18 ans sont forcées de se marier. Le mariage des enfants et des adolescentes est particulièrement important au Niger, avec un taux de 75%, au Tchad, en Centrafrique, au Mali et au Burkina Faso, pour ne citer que quelques pays. L'Union africaine a lancé récemment une nouvelle campagne « Stop au mariage des enfants ». Pour le magazine Femmes, Nathalie Barge a tenté de cerner les défis de cette nouvelle campagne avec la ministre burkinabé des droits humains, Julie Prudence Ninia Sonda.
C'est un phénomène qui est quelquefois qualifié de traditionnel. Alors, pour changer les mentalités, c'est une lutte de longue haleine. Il faut continuer à redoubler d'efforts dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la sanction.
Vous avez parlé de la tradition, c'est ce qu'on entend depuis des décennies. Ouais. Comme pour le cas de l'excision, il faut faire attention, il ne faut pas choquer les mentalités, etc. Mais on est au 21e siècle, ouais. N'est-ce pas ? Lorsque une petite fille de 9 ans est mariée avec un homme de 30, 40, 50, 60 ans, est-ce que ce n'est pas choquant ?
Mais c'est très choquant. C'est très, très choquant. Nous avons vécu des cas où, à l'école primaire, des jeunes filles de moins de 13 ans ont été mariées à des hommes. Et au moment où nous avons voulu intervenir, ces petites étaient déjà enceintes. Elles ont dû donner naissance en perdant la vie. Ou encore, elles ont dû avoir des enfants pendant qu'elles sont elles-mêmes des enfants.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans cette campagne ?
Au Burkina, il y a déjà des actions qui sont entreprises. Le taux a baissé.
Le taux a baissé. Mais attendez, excusez-moi, parce que 52%, le taux a baissé, il était de combien ?
Ben, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a des jugements qui ont été rendus et qui ont condamné des personnes, non seulement de la famille, ou encore les auteurs, ceux qui ont accepté de prendre en mariage, ceux qui ont donné en mariage, ceux qui ont été complices de ces actes-là ont été poursuivis, jugés et condamnés.
La peine, dans votre pays, il y a encore 52% de cas d'enfants mariés. Comment vous expliquez ça ?
Il faut que je rectifie. Le mariage légal se fait devant l'officier de l'état civil. Les 52% dont vous parlez, c'est par exemple deux familles qui s'entendent pour qu'on donne une fille à un homme en union. C'est par le mariage coutumier ou quelquefois par le mariage religieux.
Le gouvernement a des moyens de vérifier ça quand même.
Mais on essaie de vérifier. Vous savez, c'est très vicieux. Pourquoi est-ce que l'excision existe jusqu'à aujourd'hui ? C'est parce que les femmes se cachent pour exciser. C'est parce que les parents se cachent pour amener les enfants pour aller les faire exciser. Et là, il faut que le gouvernement met des moyens pour pouvoir retrouver, pour pouvoir enquêter et poursuivre.
On peut dire en conclusion qu'au Burkina Faso, le mariage des enfants, c'est tolérance zéro ?
Mais c'est tolérance zéro.
La ministre burkinabé des droits humains, Julie Prudence Ninia Sonda. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Moragibour. Nous nous quittons en musique avec Salif Keïta et Moussoulou. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Ina kosa godona, ina godona. Kandi waso famale, afisa buyuma, asa bukayi. Ene kake famabani, alola moso lefe. Ina le ina, ina le ina. Ina kosa godona.
Et un agneau m'a beau.